Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et place à l'invité politique. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 au terme d'une semaine politique assez surprenante, mais est-on au bout de nos surprises ? On aura l'occasion d'en parler. D'abord parce que c'est une question d'actualité. On l'a entendu dans le journal, La République En Marche, en tout cas Renaissance ainsi que la NUP, veulent une loi pour inscrire le respect à l'IVG dans la Constitution, même si le constitutionnaliste Didier Mauss nous disait à l'instant que juridiquement ça n'était pas nécessaire puisque la Constitution prévoit déjà ce respect à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que pour le symbole, c'est nécessaire ?
Je crois que politiquement c'est nécessaire, même si juridiquement ça ne l'est point. Politiquement parce que l'ensemble des Françaises et des Français sont un peu choqués par ce qu'ils ont vu de la Cour suprême des États-Unis, même si ça n'a aucun rapport avec la France, ça ne fonctionne pas de la même façon, etc. Et que c'est une liberté qui est donnée, si je puis dire, aux États pour pouvoir prendre une législation contre le droit de l'avortement. Mais on voit bien qu'il y a des tentations de revenir sur tout ce qui est des acquis pour les femmes. Donc, politiquement, évidemment, faire voter une loi constitutionnelle peut être une bonne chose.
Même si elle est symbolique.
Oui, c'est symbolique. Parce que sur le plan juridique, mais c'est peut-être pas symbolique sur le plan politique tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez
parce
dire
que
par
ça, là bien, parce que c'est une de mes idées, c'est que la gauche devrait construire des propositions gouvernementales. Valérie Rabault le fait, le propose là sur la question du pouvoir d'achat. Mais elle devrait avoir un nouveau plan, un plan dans tous les domaines. Et on voit que ensemble peut soutenir ou participer, même s'ils ont formellement parlé les premiers, mais participer à des propositions. Donc il n'est pas impossible que la gauche puisse aujourd'hui avoir un gouvernement d'urgence, proposer un gouvernement d'urgence et dire au président de la République, eh bien écoutez, voilà les propositions que nous faisons, à vous de vous déterminer.
Bon, en tout cas, rebombinons jusqu'à lundi, la petite bande et Jean-Luc Mélenchon qui voulait un groupe unique à l'Assemblée, là à la fois le PS et les autres lui ont dit non, est-ce que ça change quelque chose ?
Non, bon, ça ne change rien, vous savez, la vocation du Parti Socialiste, ce n'est pas d'être une franchise de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste est un grand parti qui doit rompre avec cette espèce de syndrome du minoritaire qui n'ose pas s'affirmer dans la vie politique parce qu'il y a eu une déconvenue lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est une formation politique qui domine au Sénat, domine dans les collectivités locales, est présente souvent dans les débats. Elle doit reprendre sa place. Ça, c'est le premier point. Le second, le Parti Socialiste doit s'interroger sur le fait qu'il ne peut pas être dans le déni. Le Parti Socialiste n'a pas gagné l'élection législative. Il n'a pas gagné l'élection législative parce que le programme, l'orientation, peut-être même le leader proposé comme Premier ministre, était trop radical par rapport à une société française qui, je l'avais dit ici il y a cela quelques semaines, va à droite.
Vous voulez dire que c'est la NUP qui ne doit pas être dans le déni et pas le Parti Socialiste ?
Mais si, parce que le Parti Socialiste dit on a eu un succès, on a gagné. Non, on a sauvé les meubles. Bon, c'est très bien, tant
parce
mieux.
Parce qu'elle fait partie de la NUP. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à savoir si elle fait partie intégrante de la NUP. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un grand succès à ces élections législatives, contrairement aux dernières en 2017. Ou alors, est-ce qu'elle se défend d'être dans la NUP, où il y a une césure qui est marquée, en disant, ben voilà, on ne va pas aller derrière Jean-Luc Mélenchon systématiquement.
Alors, si vous me le permettez, je veux proposer une troisième solution. Ouais. C'est un peu le syndrome des anciens premiers secrétaires qui font des synthèses. Mais moi, je pense qu'il faut construire une nouvelle union. Une union gagnante.
Encore ?
Oui.
On a perdu là.
On n'a pas gagné. Je sais bien que l'idée, c'est magnifique, mais on n'a pas gagné. Bon, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre.
Non.
Bon, la gauche a progressé, mais elle n'a pas gagné. L'objectif, c'était bien de gagner, sinon on a trempé les Français.
Oui, mais il y a une majorité relative de l'ensemble.
Et donc, on n'a pas gagné.
Non, mais très bien. Bon. Personne n'a gagné. C'est l'école des fans à l'inverse. Personne n'a gagné.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que là, nous avons une crise.
Oui.
Il y a une légitimité présidentielle qui est incontestable. Bon, et il y a une légitimité parlementaire. D'habitude, il y a une cohabitation. Là, il ne peut pas y avoir de cohabitation.
Bien sûr.
Puisque, donc la question, je serais tenté de dire, c'est comment on construit une cohabitation.
Alors, comment est-ce qu'on construit une cohabitation qui ne sera pas une cohabitation? Ça sera plus une coalition.
Mais ça peut être aussi une cohabitation. Ça dépend du président de la République. Il peut demander à un Premier ministre minoritaire, puisqu'il n'y a pas de majorité, de venir à l'Assemblée.
Vous pensez
et
à
soutenir.
Qui
J'en sais rien. Mais si vous ne faites pas de proposition, si nous, nous rentrons dans le coup par coup, je vois bien, au fin de compte, coup par coup, c'est un élément de décomposition, mais c'est un élément qui permet au groupe parlementaire de continuer à être dans l'opposition sans se mouiller quant aux propositions. Mais ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Donc, ça veut dire que les uns et les autres ont en tête le fait qu'il va y avoir une dissolution.
Ah, d'où je reboucle, nous y voilà.
D'où je reboucle mon
mais
analyse.
Quand
mais j'en sais rien. D'où je reboucle mon analyse. Si on est dans cet état d'esprit, si en fin de compte, c'est une crise qui est insurmontable institutionnellement et que l'on va à une dissolution, il faut peut-être s'y préparer. Donc, cela veut dire qu'il faut construire une union gagnante. Pour construire une union gagnante, ça ne peut pas être la reproduction de la NUPES. Donc, voilà pourquoi je propose que les socialistes prennent l'initiative de travailler à un gouvernement d'urgence.
Oui, et de travailler également à une dissolution.
De travailler à une dissolution, ce n'est pas eux qui le décident, donc ce n'est pas eux de travailler. C'est d'avoir des propositions qui permettent aux Français de se sortir de la difficulté dans laquelle ils sont et de permettre aussi de surmonter la crise que nous traversons.
Vous lui donnez combien de temps à cette Assemblée et à cette Première ministre qui est Elisabeth Borne avant dissolution ?
Écoutez, je ne sais pas, parce que la difficulté, elle est où ? Elle est dans le fait que personne n'est majoritaire absolu. Donc dans une situation où personne n'est majoritaire absolu, vous n'avez pas une coalition qui peut permettre de renverser. Prenons un exemple.
Mais ça, c'est de la théorie.
C'est très pratique. C'est très pratique, regardez. On dit on va déposer une motion de censure.
Okay.
Ah, attention, franchement, on dit à Madame Borne, vous devez venir là, et poser la confiance. Mais on sait déjà que ni le Rassemblement National, ni LR, ni encore moins Ensemble, va la voter. Donc, ça veut dire qu'on sait déjà que l'on va être battu sur une motion motion de censure. Et ça sera la même chose quand le Rassemblement National. Donc, on est dans une situation où on ne peut pas gouverner et on ne peut pas renverser. Donc, il faut bien trouver une solution. Et cette solution, c'est ce que je dis, c'est doit soit construire une cohabitation, soit être dans une autre solution, c'est-à-dire la dissolution.
Concernant le Rassemblement National, certains disent que Marine Le Pen et ses 88 députés vont jouer un rôle crucial, notamment d'abstention pour suivre la majorité. Est-ce que vous y croyez ?
Je pense que Marine Le Pen a en tête la prochaine élection présidentielle. Et donc, elle va essayer de démontrer que elle est à la fois
ça sera
dans
sa
l'opposition.
Quatrième, hein.
Oui, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est aussi dans la même logique.
Bon.
Donc, elle va être
donc,
dans
même
l'opposition.
Même si elle a dit que c'était sa dernière, etc., vous n'y croyez pas ?
Non, je ne crois pas. Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il est au-dessus de l'ensemble de la gauche et il pense que cette union peut lui permettre de gagner là où il a perdu. Mais Marine Le Pen sera dans l'opposition sur ces thèmes et ces propositions qui sont assez classiques, qui sont une certaine xénophobie que nous connaissons bien. Et puis, par ailleurs, à des moments donnés, si c'est son intérêt, elle peut s'abstenir, évidemment.
Vous avez dit tout à l'heure que le Parti Socialiste est un grand parti. Je pense que certains de nos auditeurs ont dû tomber de leur chaise, puisque on a vu Solferino se fermer. Vous avez été un des derniers premiers secrétaires du Parti Socialiste. Et en même temps, il y a un ancrage territorial du PS. Alors aujourd'hui, vous qui observez ça de loin ou peut-être même de plus près qu'on ne le croit, vous comptez sur qui ? Sur Boris Vallaud, sur Jérôme Guedj, sur des gens comme ça ?
Moi, je...
Est-ce qu'il y a des ténors, des barons vraiment totalement estampillés PS qui pourront mener cette fronde dont vous parlez ?
Bien, pour cela, il faut travailler une refondation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas sur le thème de la refondation, nous sommes sur le thème de la fusion dans la NUPES. Donc, il faut trancher ce débat, qui est un débat stratégique. L'avenir du Parti Socialiste, est-ce que c'est être une franchise de Jean-Luc Mélenchon ou l'avenir du Parti Socialiste est d'être le pilier d'une nouvelle union ? Voilà, c'est un débat.
Mais qui décide de ça ?
C'est un congrès et il aura lieu à l'automne.
Bon.
Et à ce moment-là, On verra ce que a décidé le Parti Socialiste, ses adhérents, ses militants, ce qu'ils ont décidé pour l'orientation stratégique. C'est fondamental. Parce que trancher cette question, qui est ouverte, qui est camouflée aujourd'hui parce qu'on est dans l'urgence parlementaire, etc. Mais c'est une question essentielle. Et je dirais même, si vous me le permettez, que c'est une question qui touche aussi la suite de la crise que nous traversons. Parce que si nous restons dans la NUP telle qu'elle est aujourd'hui, à l'évidence, nous allons à des élections parce qu'il y aura dissolution et nous serons dans cette, dans cette ancienne alliance. Si nous proposons une nouvelle forme, la manière dont le débat va pouvoir continuer au Parlement et puis la manière dont le Parti socialiste et les forces de gauche s'organiseront pour une prochaine élection législative sera totalement différente. Dans un cas, c'est perdant. Dans un autre, ça peut être gagnant, car on aurait pu gagner.
En attendant, des textes vont être présentés. J'entends bien que vous souhaitez une dissolution, mais en attendant, le travail parlementaire va se faire, avec en attendant toujours Elisabeth Borne, Premier ministre. Des textes vont peut-être arriver, comme peut-être le texte sur les retraites. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une assemblée à la René Coty, à la 1946, où chacun va se renvoyer la balle, où ça va être inaudible, où il y aura une navette parlementaire incessante, où on va brandir, parce qu'on a le droit, une fois par session, le 49-3. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Christophe Commandelis?
Il va se passer que l'Assemblée va être le théâtre d'une conflictualité partisane. C'est d'ailleurs ce que souhaite le président de la République.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'à partir de là, il va être dans une situation visant à démontrer que le Parlement est bloqué et que lui, c'est un homme d'ordre. Et on y fonce tête blessée dans cette orientation, puisque nous suivons Jean-Luc Mélenchon dans une orientation d'opposition frontale. Nous ne sommes pas là en disant « voilà notre programme de gouvernement ». Et nous tournant vers ensemble en disant est-ce que vous êtes d'accord? Et nous tournant vers les écologistes en disant est-ce que ça vous va? Ou le Parti communiste? Puis après, en essayant de faire, là pour le coup, une coalition avec Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas là-dedans. On est dans... on voit bien la France insoumise qui avance, qui s'affronte, qui fait des propositions, qui dit qu'elle déposera une motion de censure. Et nous, on suit. Voilà.
Un dernier mot, Jean-Christophe Candalès, vous avez regardé le président mercredi soir?
Oui.
Et alors?
Je crois qu'il a défini sa stratégie. Sa stratégie, c'est très simple. Il y a une crise entre le législatif et l'exécutif qui doit gagner l'un des deux.
C'est intéressant parce que à aucun moment, contrairement à beaucoup d'observateurs, vous ne l'avez décrit comme perdu, ne sachant pas quoi faire. Vous vous dites qu'il est déterminé, il a un plan d'attaque.
Mais il a un plan d'attaque, c'est faire porter la responsabilité de l'absence de possibilité de surmonter la crise au Parlement, parce que c'est le régime des partis. Il veut rétablir l'exécutif, puisque l'exécutif a été battu dans cette élection.
Merci beaucoup Jean-Christophe Combadélis, ancien secrétaire du PS, d'avoir été avec nous sur Europe 1 dans une poignée de secondes. Ça fait débat, et c'est même maintenant. Bonsoir Édouard Dorian-Sipel. Porte-parole de Territoire de Progrès, bonsoir à Othmane Nasrou.
Bonsoir.
Vice-président LR de la région Île-de-France. Même punition, j'allais dire, mais c'est l'actualité. Et effectivement, ça n'a pas loupé. 24 heures après la décision de la Cour suprême américaine sur cette révocation du droit à l'avortement, cette proposition de la majorité d'inscrire le respect à l'IVG dans la Constitution. Othmane Nasrou, tout à l'heure dans le journal de 18h, Didier Mauss, le constitutionnaliste, disait que juridiquement, ça n'était pas nécessaire puisque tout était prévu juridiquement tel quel dans la Constitution. Est-ce que politiquement, c'est nécessaire?
Je pense que là, c'est une volonté de faire une opération qui est davantage une opération de communication. Parce que si on doit modifier notre Constitution à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave aux États-Unis, eh bien, on n'en finirait pas là. En l'occurrence, moi, je veux le dire très clairement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est choquant, c'est inacceptable. Mais je ne crois pas que la question se pose dans les mêmes termes dans notre pays. Je ne suis pas opposé à l'idée qu'on puisse l'inscrire, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette annonce de la part d'une majorité qui avait refusé la même proposition en 2018? Et donc, on voit qu'il y a une volonté plutôt de traiter certains sujets plutôt que d'autres, parce qu'il y a des sujets peut-être qui arrangent moins. ceux qui sont en responsabilité depuis 5 années, je pense à la sécurité, je pense au pouvoir d'achat. Donc on est tous d'accord sur l'importance, bien sûr, de sacraliser ce droit à l'avortement. Je ne crois pas qu'il soit menacé, évidemment pas dans les mêmes termes qu'aux États-Unis, mais donc je ne comprends pas très bien cette initiative et ce volte-face 4 ans après la précédente initiative qui avait été rejetée par le groupe macroniste à l'Assemblée.
Vous faites du marketing, Edouard Dorian Sipel ?
Non, d'abord, cette décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique est dramatique. C'est une immense régression qui privera des millions de femmes aux États-Unis d'Amérique d'un droit fondamental, d'un acquis, de ce que l'on pensait pouvoir être un acquis définitif dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique. Priver donc des millions de femmes de ce droit fondamental, et c'est extrêmement préoccupant. Surtout quand cette Cour suprême, en même temps, libéralise le port d'armes dans l'espace public aux États-Unis. On voit donc que ce sont des offensives ultra-réactionnaires qui sont préoccupantes au sens qu'on observe, on constate que certains acquis que l'on pensait irréversibles de nos démocraties peuvent être supprimés du jour au lendemain par une Cour suprême comme aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que c'est une excellente opportunité pour que en France on puisse
pour
apporter plus que pour le symbole, pour
parce
apporter une garantie fondamentale encore plus forte en le revendiquant. Et je suis heureux de la proposition de loi qui a été faite et déposée au ce jour par Aurore Berger, qui préside le groupe de la majorité présidentielle. Donc je pense que c'est important. Voilà, il y a une opportunité et je suis heureux qu'elle a été faite, a été déposée et que aussi des groupes d'opposition suivront pour
Othman
pouvoir le valider.
Je l'ai dit, on est tous d'accord sur le constat de la gravité de ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr que c'est un droit fondamental. La question, c'est pourquoi maintenant on a cette proposition-là, alors qu'en 2018, vous l'aviez rejetée quand c'était une partie de l'opposition qui l'avait proposée. Ce volte-face est étonnant. Ça, c'est le premier point. Puis, vous l'avez dit, la Cour suprême des États-Unis a aussi consacré le port d'armes. Je n'ai pas vu que, du coup, on se sentait obligé en France de l'inscrire également dans la Constitution, notre refus du port d'armes. Donc, soyons cohérents. On ne va pas être ici en France, la chambre d'enregistrement en riposte, en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet du droit à l'avortement dans notre pays, là aussi, prenez vos responsabilités. C'est un problème d'accès à l'IVG, parce qu'on a des centres aujourd'hui qui souffrent d'un manque de moyens. C'est de plus en plus difficile d'accès. Ce n'est pas le principe qui est attaqué aujourd'hui, ce sont les modalités pratiques. Et là-dessus, le gouvernement n'apporte aucune vraie réponse. Et donc, je vois là aussi qu'il y a, à mon avis, effectivement, une opération qui est davantage politicienne, même si sur le fond, on est tous d'accord qu'on veut défendre ce droit à l'avortement. Je ne comprends simplement pas pourquoi on veut le faire à la suite de ce qui se passe aux États-Unis.
Les seules discussions qu'il y a en ce moment, d'ailleurs entre parlementaires, c'est sur les semaines, le nombre de semaines. Voilà.
Je suis désolé, entendre ce discours, on pourrait penser que c'est un acte banal, ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique avec la suppression de ce droit fondamental.
Mais quel rapport avec la France ?
À l'interruption volontaire de grossesse. Le rapport, il est simple, c'est que nous voulons garantir ce droit de manière constitutionnelle la plus forte possible. Je pense que sur certains sujets comme ça, qui sont des acquis et contre lesquels on porte atteinte, même si ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas dans un régime autoritaire que
mais
ça
en 2018
passe.
Vous expliquiez qu'il n'y avait pas besoin de garanties juridiques suffisantes. C'est Madame Brun-Pivet qui l'expliquait à l'Assemblée.
On est à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Moi, je suis
Vous avez
fier.
Évolué sur cette question.
Je suis fier, moi j'ai toujours été pour, mais moi je crois que si notre pays peut réaffirmer qu'un acquis fondamental des citoyens, en l'occurrence des citoyennes, si ailleurs dans une démocratie on peut y porter atteinte, ici en France on porte l'idée de le garantir encore plus fondamentalement dans la Constitution. Et je pense que ce type de raisonnement et d'attitude sera d'autant plus nécessaire dans l'avenir face à des atteintes qui pourront être portées contre des droits fondamentaux de la démocratie. Moi, je prends, je ne sais pas pour vous, vous êtes de droite, républicaine. Mais je pense que vous pouvez partager avec moi quelque chose qui est un sentiment d'inquiétude majeur contre les régimes démocratiques. Moi, je ne sais pas si dans 10, 20, 30, 40 ans, dans l'ensemble de la planète, le régime démocratique sera encore aussi solide qu'il est aujourd'hui. Quand je vois la géopolitique mondiale, quand je vois la guerre de nouveau en Europe, quand je vois ce que peut et est capable de faire M. Poutine, quand je vois le régime autoritaire, quand je vois la Chine, quand je vois les enjeux, moi je crois qu'on a besoin d'avoir des démocraties fortes. Et je vais vous dire, la nécessité d'a réaffirmer les principes et les acquis fondaux de notre démocratie, d'en faire un esprit vivant,
vous
partagé,
venez de faire
pas
un très beau discours de politique
de société,
générale.
De consommation démocratique.
C'est passionnant.
Moi, je pense que c'est important.
J'entends
peut-être qu'Eduardo est candidat à Matignon.
Ben, je vois, c'est un très beau discours de politique générale avec beaucoup de, très beaux concepts sur la défense de la démocratie. Aujourd'hui, c'est la démocratie menacée. C'est la démocratie menacée dans notre pays. C'est davantage à cause de cette instabilité politique que nous avons, qui est la résultante de cette manière aussi de faire de la politique. En 2018, vous expliquiez devant tout le monde qu'il n'y avait pas besoin du tout d'inscrire ce droit dans la Constitution.
Non, mais peut-être.
Contre l'opposition
mais peut-être,
que vous sollicitez aujourd'hui pour vous aider.
C'est une occasion ratée sans doute.
Cette politique de gribouille.
Voilà, c'est dit.
Non, mais bon,
c'est
moi, je ne vais pas faire de langue de bois. C'est peut-être une occasion ratée.
Oui, mais
moi-même, je n'étais pas encore dans la majorité présidentielle, mais j'avais trouvé une occasion ratée. On ne va pas la commenter. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'initiative. Et que si on peut se rassembler et à un
mais
moment
il faut
sérieux,
que ce soit.
Mais est-ce que vous imaginez
c'est un sujet trop grave pour que ce soit simplement
jours.
Une question d'occasion, si vous voulez. Encore une fois, j'aurais très bien compris cette démarche si c'était sans lien avec les États-Unis.
Non, mais juste un mot, franchement.
Je considère que
mais vous avez raison tous les deux. Vous avez raison tous les deux.
Est-ce qu'on imagine, il y a encore quelques jours, que ce droit fondamental des femmes allait être supprimé aux États-Unis d'Amérique, dans la plus grande démocratie.
Ça fait plusieurs mois que cette décision est attendue de la part de la Cour suprême. Tout le monde le savait.
D'abord, avec la nomination des juges par Donald Trump, ça a été un premier signe. Et puis, il y a eu la fuite du rapport il y a quelques semaines, où on savait de toute façon que cette décision n'avait pas été inscrite.
C'est là où je suis en désaccord profond avec vous. C'est que ce débat-là, il dépasse les frontières de la France. Vous avez un raisonnement franco-français.
Mais on parle de la Constitution française.
Vous parlez par rapport à des petits paramètres.
J'ai un raisonnement franco-français parce que c'est la Constitution franco-française.
Il y a un message aussi adressé à toutes les femmes dans le monde. Là où certains vacillent sur ce droit fondamental des femmes, en France, on le revendique. Mais c'est aussi un message pour tous les pays où des femmes et des hommes aussi militent pour que ce droit-là soit un nouvel acquis.
Si, je viens, ce droit est un acquis,
je suis originaire du
est-ce
Brésil.
Est-ce qu'on peut vous interrompre
ce
deux
droit-là
petites
au
secondes.
Brésil est toujours interdit.
Eh bien, si c'est si important pour vous, pourquoi est-ce que les moyens ne suivent pas les échographes, par exemple, dans les centres IVG? Vous savez que les collectivités se retrouvent à les financer à la place de l'État. Nous le faisons en Île-de-France. Nous avons multiplié par 4 notre soutien aux centres IVG parce que l'État se désengage. Donc c'est beau les grands principes. On est d'accord. Encore une fois, le débat, ce n'est pas de savoir, entre vous et moi en tout cas, si on est contre le droit à l'avortement. On est tous d'accord que c'est un droit fondamental. Mais il ne suffit pas. Mais il ne suffit pas de belles déclarations de principe ou il ne suffit pas simplement de l'inscrire dans la Constitution. Il faut que les moyens sur le terrain suivent. Et là-dessus, il y a une grande hypocrisie de la part de ce gouvernement
et
de la part de cette majorité.
Préjugés, vous dites que le gouvernement n'a rien fait en la matière. Je pense pas que ce soit la réalité.
Les ne suivent pas vos belles déclarations.
Avec la région Île-de-France, je ne suis pas sûr que ce soit du même niveau.
Ce que dit Eduardo Riancipel est intéressant, c'est-à-dire qu'il a, enfin pardon, je parle sous votre contrôle, c'est qu'il y a cette possibilité d'ébranler l'opinion sociétale de toute une planète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un signal qui est donné, qu'on en pense du bien, qu'on en pense du mal, c'est un signal qui est donné aux États-Unis, et effectivement, on écoute, on regarde. Quand, effectivement, Eduardo Riancipel dit « Regardez ce qui se passe aux frontières de l'Europe avec la guerre en Ukraine », vous avez par exemple, et c'est tombé il y a moins d'une demi-heure, le président russe qui propose aujourd'hui à son camarade bélarusse, Loukachenko, de l'aider à moderniser les avions de guerre pour les rendre capables de transporter des armes nucléaires. Est-ce que ces mauvais signaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la concrétisation? C'est, par exemple, sur le thème de l'IVG, Othmane Nasrou, est-ce que c'est, oui, même si c'est d'une certaine manière, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le journal de 18h avec Didier Mauss, le constitutionnaliste, superfétatoire, puisque ça ne sert pas à grand-chose juridiquement, est-ce que, bah, finalement, le fait de stabilo-bosser, de surligner plutôt un texte, bah, ça le rend, du coup, plus saillant et plus important?
Je peux comprendre qu'il y ait une dimension symbolique. Je considère juste que les enjeux auxquels nous faisons face méritent plus que de la symbolique. Et je ne peux pas non plus ne pas y voir une forme d'opportunité politique s'agissant d'un volte-face sur ce sujet-là. Et donc, encore une fois, vous me parlez d'autres sujets avec des enjeux absolument majeurs. Sur la politique de défense, la réponse ne pourrait pas être, on inscrit dans la Constitution que nous devons être souverains sur le plan militaire. Le sujet, c'est la loi de programmation militaire. Il faut que les moyens suivent et pas simplement les déclarations.
Mais pardon, la loi de programmation militaire, elle est votée. Elle vise à porter d'ici 2025 le budget de la défense à raison de 2% du PIB. Et je pense que, y compris des révisions supplémentaires pourront être faites à l'occasion de ce quinquennat et de cette mandature nouvelle. Je pense que jamais les moyens de la défense n'ont autant augmenté depuis ces dernières années. Et je crois que là-dessus, y compris tous les bancs de l'Assemblée nationale, avait suivi cette volonté en appuyant les projets du gouvernement. Et je pense que cette année, pour cette législature, ce sera la même dynamique qui sera enclenchée. Là-dessus, il faut être clair.
Je vous entends depuis tout à l'heure. J'ai l'impression vraiment que cette majorité sortante, et qu'Emmanuel Macron derrière, vous ne vous remettez jamais en cause. Vous faites tout bien. Le droit à l'avortement, vous avez fait.
Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une occasion manquée. Je peux pas être.
Pardon, on a une mandature qui commence. On a l'Assemblée nationale qui est dans l'état où elle est. Et parce que vous avez choisi d'enjamber les sujets de fond, typiquement, sur cette question de l'avortement, à aucun moment ça n'a été inscrit, ni dans votre projet aux élections présidentielles, ni dans votre projet aux élections législatives. Et pour cause, vous n'aviez rien inscrit du tout. Vous ne vouliez surtout pas qu'on aborde les sujets de fond. Et donc, aujourd'hui, vous êtes surpris que vous vous retrouviez dans une situation de ne pas avoir cette majorité absolue. Et là, vous nous faites la même chose. Vous me dites à chaque fois, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, vous faites un coup politique, un coup médiatique avec cette proposition qui sort de nulle part au début d'une session parlementaire dans laquelle sont inscrits bien des sujets aussi extrêmement importants. Moi, j'aimerais qu'on débatte aussi du pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on débatte aussi de la sécurité et pas simplement de ce satisfecit que la Macronie se livre en permanence à elle-même.
Alors, justement, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder tous les sujets que vous proposez, Othmane Nasrou, dans une assemblée sans majorité relative? Est-ce que c'est un mal pour un bien?
Moi, je pense effectivement que cette situation est meilleure que celle qui aurait consisté à donner une majorité absolue à Emmanuel Macron, dont il n'a pas fait grand-chose durant le premier quinquennat, puisque nous n'avons pas fait des réformes de structure dont le pays avait besoin. Et par ailleurs, si pour la première fois un président élu se retrouve sans majorité absolue, c'est parce que c'est l'échec d'une manière de gouverner aussi. Donc oui, moi j'ai combattu une manière de gouverner que je trouvais très verticale, qui refusait de se concerter, qui était émaillée de petites phrases inutilement blessantes, qui a ignoré les corps intermédiaires, qui a fait du Parlement une caisse d'enregistrement et qui a laissé les extrêmes progresser dans notre pays. Extrême droite puis extrême gauche. Et donc, c'est l'échec d'une méthode, d'une manière de gouverner. Et donc, c'est bien qu'on ait une assemblée qui puisse délibérer davantage. Et je le vois. Simplement, c'est pour cela que je regrette les opérations de communication. Si on veut vraiment que nos idées soient retenues, nous proposerons des textes, nous proposerons des amendements. Sur la précédente mandature, il y a à peine 1% des amendements des Républicains qui avaient été adoptés par la précédente majorité. Donc quand j'entends aujourd'hui que c'est nous qui bloquons, ça n'est pas vrai. Nous serons force de proposition, nous voterons tout ce qui va dans le bon sens et je crois que ça peut être salutaire pour le pays.
Donc une opposition constructive, comme on dit. Édouard Dorian-Sipel ?
Oui, je crois que nous avons une situation nouvelle, inédite, avec une majorité relative et qui oblige donc à construire des compromis.
Qui
construire
oblige
cette majorité.
C'est pas de gaieté de cœur, j'ai l'impression.
Bah, écoutez, on ne va pas non plus dire n'importe quoi. Quand on peut avoir une majorité absolue, c'est toujours plus confortable. Maintenant, ce n'est pas le choix des Français, dont acte. En même temps, nous sommes dans une responsabilité, puisque les Français aussi ont décidé de donner 245 députés à la majorité donc, du président de la République. À nous donc de faire ce travail, d'aller donc discuter. Je crois que c'est un message clair des Français. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Je crois que les Français veulent en effet que le Parlement dialogue. Ils veulent qu'il y ait une co-construction de la loi, qu'il y ait plus d'échanges. Eh bien, la Première ministre Elisabeth Borne a montré cette très grande disponibilité. Moi, je suis plutôt confiant. La question maintenant est de savoir si les autres groupes d'opposition sont dans la même disponibilité que nous. Pour nous, nous sommes disposés. Et puis, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a une réalité politique. Il faut avancer avec elle.
Othmane Nasrou, Édouard Dorian-Sipel dit les Français ont donné la majorité avec 245 députés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre ?
Non, encore une fois, moi, les Français n'ont pas voté pour nous dire ce serait bien que vous discutiez entre vous. Les Français n'ont pas voulu donner une majorité pour la première fois à un président élu. Ça n'était jamais arrivé. Et là aussi, je n'entends aucune remise en cause. J'ai entendu la déclaration du président de la République
mercredi,
qui n'était pas d'une grande disponibilité, puisqu'il nous indique qu'il a été élu sur un projet clair. Je défie quiconque, n'importe quel électeur, on peut aller dans la rue tout de suite et demander à n'importe quel Français.
Vous m'avez renouvelé la légitimité. Vrai
oui
ou faux ?
Ben, la légitimité, il est élu, mais sur un projet clair, il a dit « j'ai été élu sur un projet clair ». Vous demandez à n'importe quel Français dans la rue, en sortant de ce studio, quel est le projet sur lequel a été élu le président de la République ? Personne n'en sait rien. Et il s'était fait à dessein.
Pas
et donc, quand on n'a pas une majorité d'idées, quand on n'a pas mis les propositions sur la table, et on l'a vu dans cette campagne législative totalement atone, eh bien on n'a pas de majorité dans les urnes.
Il a été élu par défaut, c'est ce que vous dites ?
Je pense effectivement qu'il a été élu par élimination, et c'était voulu, dans cette stratégie de face-à-face avec les extrêmes, qu'il n'a cessé d'instrumentaliser, et qui lui est revenu en boomerang dans les élections législatives. C'est ça la réalité.
Par défaut ou par conviction, Édouard Dorian-Sipel ?
Il y a toujours de tout. Moi, je ne suis pas dans la tête des Français. En tout cas, il y a un résultat politique.
Vous les observez ?
Oui, mais en même temps, je ne prétends pas être dans la tête des Français. Ils sont assez grands pour s'exprimer. On lit tous les enquêtes aussi. Non, je crois qu'il y a une réalité politique. Un président qui a été réélu pour la première fois avec une majorité sortante, il a été mieux élu que la dernière fois. 28% au lieu de 24 avec 1,6 million de voix en plus. Voilà, mais il y a cette situation de pas de majorité absolue, une majorité relative. Et je crois que le message, c'est que nous voulons ce président de la République.
Une petite majorité relative.
Aussi
et puis
que
c'est
cette majorité discute davantage, qu'elle discute davantage, qu'elle ne soit pas absolue, qu'elle soit relative, partagée. Eh bien, faisons-le. Tout est inédit dans la période. Ouais. Tout est inédit. Ce n'est pas la peine de rechercher des repères dans le passé. Rien ne peut aujourd'hui.
Mais si on n'en tire pas les enseignements, si vous n'en tirez pas les enseignements, le pays va dans le mur. Mais si vous continuez à considérer que c'est parce que vous n'avez pas été clair sur la ligne politique, que c'est l'échec du en même temps, à force de dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre, d'avoir M. Blanquer à l'Éducation nationale, marqué à droite, ensuite M. Pape Ndiaye, marqué à gauche, c'est-à-dire l'exact inverse.
Ça, c'est,
sur tous les sujets, vous avez
ça.
Brouillé toutes les cartes.
Pour moi, c'est
et c'était voulu.
S'il y a un projet sur lequel le président a été élu, en tout cas qu'il a revendiqué comme ligne centrale fondamentale de son projet, c'est celui de l'autonomie stratégique, de la souveraineté de la France et de l'Europe.
Ça ne veut rien dire, c'est des beaux mots.
Que ça ne veut pas rien dire du tout. C'est un projet qui est à l'esprit gaullien et qui, me semble-t-il, permet de rassembler une large majorité.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un zigzag de la part du président de la République
et de continuel
qui a brouillé toutes les pistes et qui fait qu'on ne savait même plus pour quel projet on vote.
Nous avons eu 5 ans historiques. On a eu, c'est vrai, les gilets jaunes pour commencer, une crise sociale tout à fait inédite et majeure. Nous avons eu dans la foulée une pandémie historique pour l'ensemble de la planète.
Mais c'est pas à cause de ça qu'il n'y a pas de majorité
absolue.
Et
nous avons aujourd'hui la guerre en Europe par la Russie contre l'Ukraine. Donc pardon, si vous n'estimez pas que c'est une situation absolument hors norme, extraordinaire, oui, le quinquennat a été bousculé. Donc, et malgré tout ça, le président de la République a été élu. Il n'a pas eu la majorité absolue. Mais tant acte. À nous maintenant, c'est ce que ont demandé les Français par leur vote. Ils ont
les Français vous ont sanctionné en ne donnant pas une majorité au président de la République. Soyons clairs.
Pardon de vous le dire, parce que moi, je mesure bien la responsabilité qu'a celle de la majorité présidentielle. Et je crois que la Première ministre s'est bien exprimée en ce sens hier, soir encore à la télévision. La question, c'est de savoir si vous aussi, l'opposition, vous serez à la hauteur de la situation, disponible pour travailler avec nous, de répondre aux exigences des Français ou faire de l'opposition bête et méchante comme on a tous été habitués à faire, parce que face à une majorité absolue, il faut aussi, si je puis dire, une opposition absolue. Maintenant que nous aurons la disponibilité, la question est aussi dans votre camp.
Répondre.
Et nous verrons, et les jugerons, et les Français jugeront.
Nasrou.
Mais là, il n'y a pas d'opposition bête et méchante, on a une majorité qui est bête et méchante. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que pour négocier, pour discuter, encore faut-il qu'il y ait deux projets qui se confrontent. Notre projet, il est connu. Je vous pose une question. En politique migratoire, on veut mettre des quotas migratoires. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? On n'en sait rien. En matière de sécurité, les peines planchées, vous ne les avez jamais rétablies alors qu'on a une insécurité qui explose. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? On mettra tout ça sur la table. Pendant 5 ans, nous avons voté tout ce qui allait dans le bon sens. Mais en face, nous avons ce zigzag en permanence qui consiste à brouiller les lignes. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué de discuter avec des gens qui ont l'impression de détenir la vérité absolue, la vérité
tout,
seule contre tous. Je l'ai dit, vous avez accepté 1% des amendements des Républicains durant la précédente mandature. Hein. Et même d'ailleurs sur cette question du droit à l'avortement dont on parlait, vous avez rejeté l'amendement qui était déposé à l'époque par la gauche. Donc soyons sérieux.
On l'aura compris, ça.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui tendre la main, faire semblant de tendre la main, parce que vous êtes, vous, en échec, parce que vous n'avez pas voulu être dans la clarté, dans la ligne politique que vous proposiez aux Français. Et vous nous demandez, nous, d'être votre béquille électorale. Alors moi, je vais être très clair, nos responsabilités, on les prendra. Nos responsabilités, je vous réponds très clairement, nos responsabilités, on les prendra. Nous voterons tout ce qui va dans le sens de nos valeurs et de nos idées. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs pour les députés qui ont été élus. Mais nous ne cautionnerons pas vos erreurs et vos manquements. Nous avons aussi des divergences indépassables et nous resterons dans l'opposition.
Édouard Dorian-Sipel, c'est intéressant ce que dit Othman Asrou. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, nous allons collaborer, on va donner des propositions. Est-ce que vous, dans Ensemble, vous allez écouter la droite ? Est-ce que vous allez écouter la gauche ? Est-ce que vous allez écouter le RN ?
Oui, je crois qu'il y a cette disponibilité-là pour
attention,
travailler en commun.
Attention, on vous enregistre. 18h49, nous sommes le samedi 25 juin.
Oui, mais moi je parle en plus sous le contrôle de la Première ministre, enfin sous le contrôle, après avoir entendu ce qu'elle a pu dire, ce que le président de la République aussi a dit mercredi dernier. Je crois que la disponibilité, elle est claire. Il est certain qu'on ne peut pas travailler sous ce quinquennat comme le précédent parce qu'objectivement, vous ne travaillez pas de la même manière avec une majorité absolue et avec une majorité relative. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Mmh. Il faut laisser maintenant le gouvernement et l'Assemblée nationale, en particulier le Parlement, avec le Sénat, travailler. il faut laisser chacun
avancer sur les questions que vous avez posées, des questions de fond. Travaillons, on peut démarrer.
Non, mais attendez, moi, d'abord, il faut laisser les députés discuter entre eux.
Mais
il faut laisser
projet,
des projets de loi.
Le président de la République a été élu sur un projet.
Oui. Moi, je parle
alors,
concret.
Qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité?
Non, mais attendez, posez des questions. Les textes vont arriver. Et les textes de votre groupe aussi.
Les peines planchers pour la sécurité, oui ou non?
Moi, je n'ai pas de réponse maintenant à vous donner.
Et personne n'a de réponse.
Je ne suis pas favorable à ces peines planchers. Moi, vous me demandez mon avis. Moi, je ne suis pas favorable. On ne les a pas faites parce qu'elles sont totalement inefficaces. Ça n'a aucune... Je veux dire, vous heurtez un principe fondamental du droit qui est celui du cas par cas,
vigueur,
de la particularité de chaque
vigueur,
décision de justice. Moi, je suis attaché à ce que chaque décision de justice soit unique et absolument particulière. C'est du cas par cas. C'est la grande invention du droit. Si on enlève ça... Vous voyez, on tue l'exécution même du droit. Qu'est-ce que ça veut dire juger d'une loi
que vous disiez
pour toutes bon, voilà.
Peine planchée, non.
De manière...
Après, c'est Édouard Dorian Cipel qui est territoire de progrès dans Renaissance, dans Ensemble. Donc,
oui, mais attendez,
votre contrôle.
Moi, je retourne la question. Je pense qu'il ne faut pas avoir de fétichisme sur les propositions. Si votre préoccupation chez les LR, c'est d'améliorer la lutte contre l'insécurité, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se retrouver. Largement.
Et je suis désolé.
Et ça ne dépend pas des totems comme,
comme les peines
planchées. Mais je pense que sur les moyens alloués au budget de la police nationale et des forces de sécurité intérieure, budget matériel et budget humain, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se retrouver. Là, il y a des trucs concrets. Il y a d'une part une proposition de loi qui a été annoncée par Aurore Berger sur la reconnaissance et dans la Constitution du droit à l'avortement.
Oui, ça, on a compris.
Donc, nous verrons ce que vous en pensez. C'est une question concrète pour vous déjà. Est-ce que tout votre groupe votera ou vous serez divisé? Deuxième proposition, c'est le texte de loi qui viendra sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement viendra avec une proposition. J'espère qu'il pourra être nourri, enrichi des propositions de l'opposition. Mais là-dessus, on verra aussi si vous êtes pour le pouvoir d'achat des Français et si on peut se retrouver.
Sûr.
C'est du concret.
Votre conception de la politique, ce n'est pas pour ou contre le pouvoir d'achat, c'est comment on fait. Ouais. Et en l'occurrence, le président de la République
a parlé... Nos députés respectifs ont discuté...
Attendez, laissez-le terminer.
Vous avez parlé d'une coalition. Moi, je suis très heureux que vous veniez d'illustrer à l'instant, certains l'ont utilisé ce terme, et on nous a demandé pourquoi vous ne voulez pas saisir la main tendue, etc. Parce que nous avons des divergences indépassables. Mais vous ne voulez pas mettre en place les
peines planchers. Quelle est la divergence indépassable la plus forte?
Ah mais il y en a des tas, je vous en donne quelques exemples. L'insécurité a explosé pendant 5 ans, le bilan de la sécurité de M. Macron, c'est une catastrophe. Les flux migratoires sont totalement hors contrôle, la dette a explosé, il n'y a pas eu de réforme de l'État, il n'y a pas de réforme territoriale, il n'y a pas de maîtrise des déficits, il n'y a pas de politique du pouvoir d'achat qui consiste à revaloriser le travail, simplement une politique qui est faite de chèques et d'aides ponctuelles que nos enfants vont payer. Et à la veille de chaque élection, on verse une centaine d'euros aux Français. Ce n'est pas ce qui est attendu. Nous avons des divergences philosophiques majeures, profondes. Voilà, et c'est pour ça que nous restons dans l'opposition.
Donc, ce n'est pas possible. Donc, ce que disait Jean-Christophe Cambadélis, avant que vous rentriez tous les deux dans le studio, donc dissolution. Donc, on arrête. C'est marrant, et on en parlait encore avec les grandes voix
moi,
ce matin, avec Catherine
Ney,
avec Charles Villeneuve et Michel Cotta. Cette dissolution, finalement, elle va arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le croit.
Écoutez, moi je ne fais pas de politique fiction, et encore moins de métaphysique politique. Moi ce que je regarde, c'est une situation où il manque 45 députés, peut-être 35 à 7 heures à la majorité.
Vous faites encore des débauchages, on en cherche les uns et les autres,
ça.
Comme vous avez fait pendant 5 ans,
on
voit le résultat.
Je connais bien le travail parlementaire et vous sous-estimez, et vous faites peut-être semblant d'ignorer, qu'il y a énormément de textes qui sont sans doute invisibles pour les Français, mais qui les concernent directement et qui sont travaillés et votés aussi par l'opposition toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Pendant ce quinquennat,
il y a eu énormément
de choses où on a avancé ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait ce cirque maintenant.
Vous voyez que l'opposition n'est pas bête. Mais
je ne fais pas de cirque, on discute.
Moi, je crois que, si vous voulez, il y a une situation, mais j'interprète les mots. Quand les gens ils disent, quand on entend le Rassemblement national ou même LR dire on ne veut pas de blocage. Bon, qu'est-ce qu'il y a sous ce terme de blocage? Ça veut dire que s'il bloque, et à un moment donné, le gouvernement il est mis en minorité, effectivement, que le risque pour tout le monde, c'est la dissolution. Ça, c'est un risque. Et on peut mettre le président de la République devant le fait accompli. Mais je ne suis pas sûr qu'au sein de l'Assemblée nationale, y compris au sein de l'opposition, on veuille aller jusqu'à ce terme. Oui. Donc, il y a différentes façons pour chacun pour se déterminer dans le vote, pour permettre qu'il y ait des majorités qui se dégagent. L'abstention, par exemple, peut être l'un des moyens, aussi bien sur les bancs de la droite ou de la gauche, qui permettent d'avoir des majorités. Moi, ce que je peux vous dire, c'est un état d'esprit et une disponibilité politique. Celle d'aller chercher le compromis sur les textes. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut chercher des majorités à chaque texte. Donc, nous verrons.
Edouard Dorian-Sipel, question. Parce que là, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce que ça veut dire que, et je parle sous le contrôle d'Otman Nasrou des LR, est-ce que ça veut dire que si sur un texte, vous avez l'opposition, quelle qu'elle soit, qui a une majorité et vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une dissolution ? Est-ce qu'au premier texte sur lequel Ensemble n'est pas d'accord avec le reste de l'Assemblée nationale, bam, dissolution, merci, au revoir,
on recommence tout. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Je pense que ça se présente techniquement dans les cas où le gouvernement joue sa responsabilité et engage sa responsabilité devant, devant l'Assemblée. Ça, c'est un cas de figure, effectivement, où s'il y a échec du gouvernement devant l'Assemblée, il y a démission du gouvernement. Et à ce moment-là, le président de la République peut aussi décider, dans ce cas-là, d'une dissolution. Et il y a un autre cas aussi, peut-être, qui est, je pense par exemple au vote du budget. Je ne pense pas que c'est sur tous les votes. Moi, encore une fois, moi, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne fais pas de préjugés.
On ne fait pas de fiction, mais on envisage les hypothèses.
Mais je pense que c'est l'opposition elle-même qui parle de dissolution, quand, en tout cas de manière couverte, lorsqu'elle parle de ne pas vouloir de blocage. Parce qu'ils savent très bien que si à un moment donné, ils bloquent, le président de la République n'aura pas d'autre choix que de renouveler les élections.
Pour les Républicains.
C'est le président de la République qui décide de dissoudre ou pas. Il le fera quand il le voudra. Ouais. Ce n'est pas mon sujet.
C'est pas une obligation.
Mais quand on ne nous demande pas, nous, de voter des choses dont on pense qu'elles sont mauvaises pour le pays, pour ne pas bloquer, ça me paraît surréaliste. La question, c'est est-ce que vous reprenez nos idées. Ce qui va dans notre sens, nous le voterons. Nous sommes cohérents, nous défendons les mêmes idées
depuis des années.
Je ne vais pas demain soutenir l'inverse de ce que j'ai soutenu sur le mandat précédent.
C'est le cas de
nos députés.
Moi, je vous parle d'une les choses vont commencer maintenant.
Oui, mais quand le président de la République arrive et dit « Vous avez 48 heures maintenant pour faire des propositions. Moi, mon projet, il était clair. » Je pense qu'il fait semblant, ou il n'a rien compris à ce qui est en train de se passer dans le pays, y compris à la colère qui gronde. Quand on arrive à faire rentrer 90 députés RN sans proportionnel, on devrait quand même se poser des questions sur la manière dont le pays est gouverné.
Je pense que c'est surtout vous à droite qui devrez vous poser des questions.
Voilà, ça nous donne quand même une ambiance à l'aube de cette nouvelle Assemblée nationale. Merci beaucoup Otman Nasrou, merci à vous Eduardo. Rian-Sipel, dans un instant le journal de 19h, juste après un piano id, c'est son dernier album. Édouard Ferlet est un jazzman français et vous allez voir, il transforme non seulement la musique mais également son instrument. Et puis à 19h30, un peu dans la continuité des débats qu'on vient d'avoir dans Panorama, avec Henri Guénaud, avec Anne Miller et avec l'historien Fabrice Dalméda, on se posera cette question, est-ce que la France fait encore rêver ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Du trio Viret qui tomba dans l'oreille de nombreux amateurs de jazz, moi compris, c'était il y a 10 ans et on l'entend encore ce titre sur certaines stations de jazz. Jean-Philippe Viret à la contrebasse, Fabrice Moreau à la batterie et Édouard Ferlet au piano. Bonsoir Édouard Ferlet.
Pierre.
Du temps s'est écoulé depuis cette mélodie romantique, jolie, qui reste dans l'oreille. Vous n'avez cessé d'évoluer et de découvrir, puis j'allais dire transformer à la fois votre musique et votre instrument. Pourquoi ne pas rester comme d'autres grands pianistes de jazz, comme Brad Meldo, comme Bill Evans, à rester à jouer du piano ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout transformer ?
Ce qui me plaît, moi, c'est en tant qu'artiste, c'est de m'amuser, de jouer, comme son nom l'indique. Je suis un joueur et je veux à chaque fois m'amuser. Et donc, c'est le renouvellement qui m'amuse. C'est l'inconnu, c'est l'inattendu. Donc, à chaque fois, j'essaye de, en gardant évidemment mes bases, trouver des choses qui vont m'exciter, qui vont susciter mon intérêt. Le piano, il y a 88 touches, mais à un moment donné, il faut essayer de trouver d'autres choses pour s'amuser. Voilà, donc c'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de trouver des solutions pour inventer. Voilà.
Il y a déjà un peu plus de 10 ans, Peine perdue, c'était quand ?
C'était en 2008.
2008, hein, 2008. Quelque chose comme ça. Je me souviens d'assister à un concert de vous au New Morning, il me semble, ou au Duc des Lombards. Vous mettiez à un moment donné, vous jouiez avec. Il y a une note que vous preniez avec votre nez, puisque vous avez
oui,
un nez un peu.
Oui, à l'époque, je faisais ça.
Vous
c'est
avez
vrai.
Ça. Ensuite, oui. vous avez un autre concert. Vous pinciez les cordes. de votre piano. Ensuite, il y a eu Think Back, qui est absolument hallucinant, puisque vous avez détricoté une partition de Bach, vous avez même joué un prélude à l'envers. Et là, maintenant, avec Pianoïde, c'est le dernier album, on est entre le piano, le pianiste, la machine, le robot, la musique.
Ouais, c'est ça, c'est le jeu avec le robot. En fait, ce qui est amusant, c'est que le robot a été inventé pour remplacer le geste de l'homme, pour imiter le geste de l'homme, pour aller plus vite, pour évidemment faire des économies.
C'est Charlie Chaplin dans les temps modernes.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de s'inspirer du geste du robot. Pourquoi ? Parce que le geste du robot, en fait, est inhumain. Et donc inimaginable. Et donc ça peut permettre à des artistes d'aller encore plus loin dans l'imagination. Nous, on a une imagination qui est quelque part restreinte. On s'imagine des choses qui sont faisables. Or, le robot fait des choses qui sont infaisables, inhumaines. Et je me suis amusé avec ce système de piano automatique, ce piano robot, à lui faire jouer des choses qui ne sont pas humaines. Mais ce n'est pas spécialement jouer vite et fort. Ça peut être, par exemple, jouer doucement et très faible aussi, par exemple. Mais il y a plein de modes de jeu qui sont inhumains et tout d'un coup, ça devient un autre instrument. C'est une façon de jouer avec la robotique et qui va vraiment inspirer poétique, le robot poétique.
Alors, on va voir ce que ça donne. On écoute le prélude en la mineur. Edouard, qu'est-ce qui se passe sur ce morceau ? Il y a combien d'instruments ? Et puis alors après, ça monte. On n'a malheureusement pas le temps d'écouter tout en entier.
En fait, il y a le piano sur lequel je joue, j'appelle ça le
piano. Instruments.
Hein. Oui, quatre instruments. Il y a le pianomètre. Le deuxième, ça va être un contrôleur qui va modifier ce que je vais jouer sur ce pianomètre, qui va l'envoyer sur un deuxième piano qui va lui jouer en métamorphose de ce que j'ai joué, ce que je lui ai proposé, c'est-à-dire faire des arpégiateurs, faire des notes répétées. Et en plus de ça, il y a un autre contrôleur qui va lui envoyer des séquences préprogrammées que je vais pouvoir envoyer quand je veux.
Donc, un contrôleur. Donc, c'est pas le contrôleur du train.
Qu'est-ce que
vous appelez un contrôleur ? Parce que là, j'ai du mal à vous suivre.
Un contrôleur, c'est un boîtier où il y a des boutons dessus et on assigne les fonctions. Sur chaque bouton, on leur assigne des fonctions.
D'accord.
C'est-à-dire accélérer le tempo, jouer plus fort, moins fort, jouer à la croche, à la double croche. Donc tout d'un coup, c'est une autre façon. C'est un autre instrument. Il a fallu que j'apprivoie cet instrument. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ce projet. Et donc, ça veut dire que le piano, j'ai le clavier et au-dessus de mon clavier de piano, j'ai un autre clavier qui s'appelle donc un contrôleur avec des boutons qui eux sont assignés à des fonctionnalités. Voilà, donc, et c'est vrai que
vous utilisez aussi un piano qui marche tout seul.
Voilà, c'est un piano en fait qui existe depuis très longtemps, du début du XXe siècle, hein, qui est venu très peu de temps après le vrai piano moderne. Et vous savez, c'est les pianos qu'il y a dans les saloons qui jouent tout seul, on met des rouleaux. D'ailleurs, il y a des grands pianistes qui ont enregistré, qui ont matricé en fait les rouleaux. Et c'est très touchant d'ailleurs d'entendre des enregistrements de Fauré, par exemple, qui a vraiment enregistré le seul moyen. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était d'avoir ces pianos-là dans son salon, d'avoir des pianos automatiques.
Parce qu'il n'y avait pas encore
Le phonogramme encore.
Et
quand le phonogramme est arrivé, ces pianos sont un peu partis. Mais il y avait 70% de la vente des pianos étaient des pianos automatiques.
Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a des pianos qui ressemblent à ces pianos, sauf qu'il n'y a plus des rouleaux, mais c'est des pianos,
par exemple,
des disques clavier de Yamaha, par exemple. Permettent de jouer un morceau et ensuite de rappuyer un bouton et le piano joue tout seul, il enfonce d'ailleurs les touches.
Exactement, on peut même récupérer les enregistrements de grands pianistes et les transformer, les faire jouer sur ce piano-là.
Donc vous jouez sur votre pianomètre et à côté il y a ce piano qui joue tout
seul. Voilà, qui joue tout seul, c'est un peu mon alter ego, mon alter robot qui va jouer. J'ai aussi des fonctionnalités qui amènent un peu de random, de désordre. C'est-à-dire que c'est pas non plus toujours très précis. Il va me proposer des choses et je vais jouer avec lui. En fait, je vais jouer avec moi, en fait. Moi transformé, c'est un petit peu... Donc, je me suis attaqué à Jean-Sébastien Bach sur les disques en solo précédemment. Et là, je m'attaque maintenant à moi. C'est le summum de l'égocentrisme, n'est-ce pas ?
Mais oui, je vois, mais je vous reconnais bien là. La générosité incarnée, Edouard Firlet. On écoute un autre titre. Thank you.
comme ça, ça a l'air un peu plus classique, je vais dire.
Bah, le défi pour moi, c'était aussi de ne pas en rajouter. Ce n'est pas parce qu'on a un deuxième piano qu'il faut mettre deux fois plus de notes. C'est presque le contraire. C'est arriver justement à avoir de nouvelles sonorités qui fait qu'on ne reconnaît pas le piano. Moi, l'idée aussi, c'est de transformer le son d'un piano en un autre instrument. Et c'est ce que me disent le public, qui me dit souvent ça en fin de concert. J'ai entendu des violons, j'ai entendu des voix, des trompettes, des percussions, bien sûr, parce que je fais des percussions dans le piano, sur les cordes, sur le métal.
J'ai vu que vous mettiez des boules, des balles de ping-pong sur les...
Oui, ça aussi, mais je préfère pas trop dire. Vous savez, mon manager me dit de pas dévoiler mes secrets, donc je ne dirai rien à la radio.
Tant pis pour lui, j'ai vu la vidéo, vous mettez des balles de ping-pong sur les cordes.
Je fais plein d'autres choses que je ne dirai pas le secret. Mais c'est vrai, voilà, j'essaie de transformer le son du piano. On a tous en tête le son d'un piano, mais en fait, c'est une caisse de résonance incroyable. Avec toutes ces cordes, on peut gratter les cordes, on peut frapper les cordes, mais avec d'autres choses que les marteaux du piano. Il y a aussi tout le cadre en métal. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut aussi jouer sur le bruit des touches sur le piano avec ses ongles, tout simplement. Enfin, bon,
ouais. Et puis, il y a quand même, le summum, c'est ce qui sort du cerveau. C'est l'art de la composition, ce titre qui s'appelle Vendry.
Ouais,
ça,
ouais.
Ça veut dire quoi, c'est,
Je ne vous dirai pas non plus.
Non, mais c'est une... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est votre imagination, ouais. C'est peut-être un paysage, c'est peut-être une femme que vous avez connue, peu importe. Mais il y a quand même... Et ce que je veux dire, c'est que des mélodies de jazz, on en a connu, et puis des mélodies de variété, on en a connu. Ouais. On arrive quand même encore aujourd'hui, en 2022, ouais, à faire une création originale.
En fait, pour moi, le secret aussi, c'est de ne pas écouter trop les collègues. Justement, on parlait de Brad Meldo. Il m'influence trop, j'essaie de ne pas trop écouter ces musiciens. Je les ai écoutés quand j'étais étudiant, Cat Jarrett, Chick Corea, et bien encore Brad Meldo. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai encore plein de choses à donner, et du coup, je m'écoute en silence, justement, que ce que j'ai. Plus je vais avoir de silence autour de moi, plus je vais pouvoir faire de la musique. C'est plutôt le contraire de ce qu'on peut imaginer. Il y a des musiciens qui peut-être préfèrent écouter beaucoup de musique pour s'en inspirer. Moi, je pense qu'on en a déjà beaucoup dans la tête et que c'est avec le silence qu'on peut réussir à créer des nouvelles mélodies.
On a écouté tout à l'heure le trio Viret, dans lequel vous avez d'une certaine manière commencé. En tout cas, ça vous a rendu célèbre. Il y a certaines fois où vous quittez votre égocentrisme que vous avez... dont on a parlé.
En rigolant, bien sûr.
Bien sûr, en rigolant. Et vous rejoignez ce trio.
Ce qui est intéressant dans ce trio, c'est que c'est justement le contrebassiste qui est le leader du trio, alors qu'en général, c'est les pianistes qui sont les plus importants. Hein.
Donc il y a une guerre des égos.
Justement pas, et on s'est vraiment amusé à changer les rôles. Et justement que la contrebasse joue autre chose que le walking bass, que tout d'un coup prenne l'archet, joue des mélodies, des accords, et que le piano joue autre chose que des solos et des accords à la main gauche. Donc voilà, c'est changer les rôles une fois de plus du trio.
Guillaume Zorga, notre réalisateur, a eu la bonne idée de remettre Peine perdue. Est-ce que ce tube, même quand vous jouez pianoïde, quand vous jouez singback, est-ce qu'on vous le réclame?
Oui, on me réclame certains morceaux que j'ai enregistrés précédemment, oui. Donc ça m'arrive de les jouer aussi pour faire plaisir au public, bien sûr.
Ça vous fait plaisir aussi?
Ça
à
fait
vous.
Plaisir aussi, ça flatte mon ego, ça donne des cacahuètes à mon ego, bien sûr.
Décidément, c'est une interview complètement sur l'ego. Il s'appelle Édouard Ferlet, en tournée en ce moment.
Oui, alors venez m'écouter la semaine prochaine, donc jeudi 30 juin, ça serait au 360 Music Factory, c'est un club très chouette à la Goutte d'Or.
Et
donc là, c'est à Paris.
Et d'autres dates en France également?
Alors après, il y a Marciac, justement, avec le trio Viret. C'est le 6 août, il me semble. Et après, le 7 avec Pianoïd. Mais vous pouvez voir les dates sur mon site, ferlet.com. Et voilà, je vous invite avec plaisir.
Merci beaucoup, Édouard Ferlet, d'avoir fait un tour par Europe 1. Et effectivement, il faut absolument écouter ce dernier disque Pianoïd. Place à Panorama dans un petit instant.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et cette question, jusqu'à 20h, la France fait-elle encore rêver? Le Louvre, la Joconde, la Tour Eiffel, la gastronomie, le savoir-vivre, le savoir-faire, le luxe, les parfums, la maroquinerie, la mode, la musique, on vient de le voir avec Édouard Ferlet, les start-up, les licornes, bien sûr. Mais que penser du nouveau clivage politique, les violences au Stade de France, les gilets jaunes, le classement scolaire? La France fait-elle encore rêver? Et si oui, comment redonner du souffle à la France? On en parle avec Henri Guénaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien député, ex-conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Vous avez publié récemment De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. Bonsoir à Anne Miller, qui est la nouvelle administratrice générale du domaine de Chantilly. Évidemment, ce beau château et ce parc de Chantilly que vous... que vous administrez désormais après être passé par la French Tech, puisqu'il va être, il va en être question également. Et bonsoir à Fabrice Dalméda.
Bonsoir Pierre.
Historien, effectivement, qui nous sera d'une grande aide dans ce débat sur cette France qui fait encore rêver. Qu'est-ce que Henri Guénaud, c'est un paradoxe depuis toujours. Cette France qui, d'un côté, bon, on peut parler de 1789, on peut parler des guerres de religion, on peut parler de la Saint-Barthélemy, on peut parler de plein de choses. Fabrice pourra parler aussi. Est-ce que c'est un paradoxe d'avoir le chaud et le froid dans cette France qu'on aime tant ?
Bon, d'abord, dans tous les pays, on a du chaud et du froid. Vous croyez que l'histoire de l'Italie a été une histoire tranquille ?
Attendez, Emmanuel Macron sortait de ce corps. Encore récemment, encore cette semaine, Emmanuel Macron a dit « Regardez l'Italie, regardez, hein, voilà ».
Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, toutes les histoires... De tous nos pays européens, même occidentaux, sont des histoires brutales, violentes, sanglantes. Et en même temps, ces pays ont produit, ces peuples ont produit des œuvres d'art extraordinaires, un art de vivre fabuleux. Bon, donc voilà, c'est, y a, de ce point de vue-là, il n'y a pas de nouveauté. Il y a un changement par rapport aux dernières décennies, notamment décennies de l'après-guerre. C'est vrai qu'il y a, mais c'est vrai dans tous les pays occidentaux, une dégradation de l'état de la société, une dégradation à la fois du climat social, du climat psychologique, qui donne pas une image très attirante aux yeux du monde, surtout que les Occidentaux ont tendance à continuer à faire la leçon au monde entier, c'est-à-dire... Prenez notre civilisation, prenez notre culture, prenez exemple sur nous. Et puis, le monde entier voit les images d'une société, que ce soit l'assaut du Capitole, le pillage de l'Arc de Triomphe, le Stade de France, les émeutes. Mais pas seulement en France, hein, y a des émeutes aussi dans les pays nordiques. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a une image très, très, très contrastée. Après la pandémie, en plus, voilà. Donc
c'est intéressant. Est-ce que Anne Miller, vous qui maintenant effectivement dirigez, administrez le domaine de Chantilly, mais vous avez vécu aux États-Unis, c'est un pays que vous connaissez parfaitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Henri Guénaud qui dit qu'effectivement les Occidentaux, je veux dire, imprègnent les autres pays dans un regard. Regardez comment il faut faire.
Là-dessus, je trouve qu'il y a aussi une grande culpabilité aussi qui se développe en Occident. Moi, ce que j'ai plutôt observé aux États-Unis, c'est le développement du sentiment de la white fragility, du fait que la culpabilité de l'homme blanc et si vous voulez, les Américains qui transposent leur propre culpabilité d'avoir asservi pendant plus de deux siècles des populations noires qu'ils ont fait venir en chaîne dans les cales des bateaux. Et du coup, ils sont en train de développer, au contraire, cette espèce de culpabilité en se flagellant. Donc, je pense qu'il y a en fait une dualité. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, il y a l'idée que... On est la civilisation des lumières, des libertés, mais d'un autre côté, on développe cette culpabilité et on a tendance aussi à se flageller et parfois à se reprocher des choses qu'on n'ose pas justement reprocher aux autres peuples parce que on se dit on a une espèce de responsabilité d'être parfait et on n'y arrive pas.
Fabrice Dalméda.
Ben, on est quand même un pays attractif. Il y a quelques éléments objectifs, on peut le dire. On reste quand même une des premières destinations touristiques mondiales. On est même encore, je crois, champion cette année. On est un des pays majeurs pour les réunions de congrès. On a même une industrie du congrès qui fonctionne très bien. Donc là, on a quelques éléments clés. Mais peut-être par rapport au passé lointain qu'on évoquait, par rapport à ce Versailles de Louis XIV, où il y avait un modèle politique attractif, là, c'est clair qu'aujourd'hui...
Ou le domaine du prince de Condé. Hein.
Voilà, exactement. Mais je ne crois plus qu'aujourd'hui, ouais. On soit le phare en matière de modèle politique. Ça, je crois que c'est... effectivement, si on parle de déclin français, je pense que Henri Guénaud sera d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on reprendrait, comme on l'a fait au début des années 60, quand on était en Afrique, je pense notamment à des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où il y avait un petit peu le modèle de la Ve République pour ces nouvelles démocraties à partir de 1960. Ça leur allait bien d'ailleurs, une Ve République très autoritaire, façon article 16. Mais ils avaient
oula,
quand même ce.
Oula, rien, voilà. On l'a jamais utilisé.
Si, une fois. Pour la
une fois. Ouais, mais... Ah oui, une fois, oui. Quand une fois.
Mais donc, il y avait cette idée que la France avait un modèle politique, comme les Lumières. On était pendant le 19e siècle, on est le pays des républicains. Il faut se souvenir qu'en Russie, hein, les révolutionnaires anti-tsaristes chantent la Marseillaise par référence à la France. Donc, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est fini.
C'est fini, vous êtes d'accord, Henri Guénaud?
Mais surtout, je pense qu'on peut pas avoir une société ne peut pas être attractive, pour employer ce mot, je le trouve assez, assez laid quand même, mais attirante, disons.
Oui, oui. Il y a
séduisante,
un côté américain dans
voilà. Si tout n'est pas, ne se développe pas en harmonie, c'est-à-dire si vous n'avez pas un modèle politique, social dans lequel les gens se sentent bien, si vous ne pouvez pas avoir un art qui se développe de façon exemplaire,
homogène.
Vous voyez, tout se tient, l'urbanisme, la façon dont on entretient, on modèle les paysages, la littérature. Il y a des sociétés qui se portent bien et à ce moment-là, elles produisent de grandes œuvres, elles produisent de la beauté, elles produisent en même temps de la richesse, produisent de l'exemplarité. Et puis, des sociétés qui se portent mal. Je trouve que la nôtre se porte mal, ce qui ne veut pas dire que tout ce que nous avons de bien soit aujourd'hui disqualifié ou discrédité. Mais quand même, quoi. Je suis d'accord, il y a la repentance, il y a la culpabilité de l'Occident, mais justement, il y a des fractures terribles, des doutes terribles à l'intérieur de notre société. Et nous les ressentons dans tous les domaines, parce que le nombre de touristes, ça suffit. D'abord, il y a beaucoup de touristes dans le nombre de touristes qui ne font que traverser la France, qui dépensent peu, font que passer. Le problème est de savoir si les touristes s'arrêtent et s'ils se trouvent bien dans cette société. Moi, je finis, mais je finis dans une ville qui s'appelle Arles, qui est une ville absolument magnifique, avec un héritage très, très ancien, très beau. Depuis toujours, les gens ne s'arrêtent pas. Enfin, ils passent, ils visitent, puis ils repartent. Donc, si vous voulez, parce que la ville a décliné, alors peut-être qu'elle va maintenant
se moderniser,
renaître, mais cette ville, avec son déclin économique, son déclin social, elle donne pas envie de rester. Voilà.
Fabrice,
c'est intéressant, pour réagir juste sur ce que disait Henri Guénaud. Au fond, à un moment donné, on était très fascinant pour le futur que nous proposions. Et je crois que si on va à Arles, malgré tout, les touristes s'y arrêtent, ils y mangent bien.
Non, mais ils dorment très peu, par exemple.
Oui, mais ils viennent voir le festival de la photo. Ça reste quand même une région qui attire du monde et qui fascine pas mal. Mais elle fascine à raison de son passé. Et je trouve que c'est un petit peu ça le problème actuel de la France, c'est que comme musée, on y reviendra peut-être avec Chantilly, on est fascinant, mais est-ce qu'on est... aussi fascinant en matière industrielle ou idéale.
Bon, on a le temps d'en parler, mais d'abord, je voulais quand même donner la parole à Anne Miller, parce qu'effectivement, avec cette photo qui n'est pas très réjouissante, des Français qui ne se sentent pas très bien parce qu'ils n'ont pas été très à l'aise, on l'a vu, vous avez vu quand même le taux d'abstention aux dernières législatives, à la dernière présidentielle. On a l'inflation, on a le chômage qui guette, même si les chiffres ont été plutôt bons dernièrement, mais on ne prend pas en compte toutes les catégories. Dans ce contexte-là, Anne Miller, vous arrivez, vous quittez la French Tech que vous avez, dans laquelle vous avez participé pendant quelques années, et vous arrivez dans ce château de Chantilly qui, non pas est à l'abandon, parce que ce n'est pas vrai, parce que le prédécesseur, parce que l'Agacan a donné énormément d'argent pendant des années, mais il y a quand même un énorme chantier, et vous avez quand même le PEPS, vous avez quand même, j'allais dire, cette volonté incroyable de dire c'est la France, c'est Chantilly et il faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, alors je ne peux vraiment pas vous laisser dire que Chantilly a été laissé à l'abandon parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y a des investissements considérables.
Je ne l'ai pas dit.
Voilà. Si vous l'avez dit.
Je suis rattrapé.
Vous êtes rattrapé, c'est vrai. Non, mais je dois redire quand même parce que c'est vrai qu'on doit beaucoup à l'Agacan parce qu'il a investi considérablement dans le clos et le couvert. Si vous voyez l'état des grandes écuries aujourd'hui, elles sont absolument somptueuses. Venez voir les grandes écuries. Le château, les petits appartements ont été restaurés. Regardez le hall d'entrée. Enfin, c'est absolument somptueux. Donc, le château n'est pas du tout à l'abandon. Au contraire, d'ailleurs, tout le monde est épaté quand on vient par l'état magnifique du château. Premièrement, voilà. Donc, et puis par ailleurs, mon prédécesseur Christophe Dardieu a fait un travail formidable et je tiens à lui rendre hommage. On lui doit notamment la venue d'un festival de jazz qui va arriver d'ici le 1er juillet. Alors,
il y a un modèle économique qu'il faut tenir.
Absolument. Alors, mais pour venir à ce que vous disiez sur l'attractivité, moi je crois quand même que les gens votent avec leurs pieds. Alors même si les Français ou les Américains se sentent pas très bien dans leur peau. Il faut quand même reconnaître que généralement, l'immigration, en tout cas, elle vient toujours vers l'Occident. Donc, ça veut dire que le modèle occidental, il est peut-être perfectible, mais c'est peut-être le moins mauvais. C'est comme disait Ésope, c'est comme la démocratie, c'est le moins mauvais système du monde. Voilà, c'est pas le meilleur, mais le moins mauvais. Par ailleurs, c'est vrai que, ayant vécu aux États-Unis, moi, je suis quand même émerveillée de voir à quel point les Américains sont en admiration devant notre art de vivre. Ça reste le cas. Sont aussi en admiration devant notre système de transport public. Alors, certes, ils critiquent le fait qu'il y ait des grèves, ouais. mais ils reconnaissent que hors grève, notre système, notre maillage de transport public, notre fréquence de transport est absolument exceptionnelle. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se flageller.
Oui, mais c'est ce que disait Henri Guénaud, c'est-à-dire que ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que c'est comme le cas de la ville d'Arles. Ils regardent et puis ils repartent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne se dit pas que tiens, ils vont s'arrêter, même si par exemple, alors je parle sous votre contrôle.
Je crois qu'en nombre de chambres d'hôtel, je crois qu'on reste quand même numéro un mondiaux.
Oui, non, mais est-ce qu'ils s'arrêtent pour investir? Oui, c'est ça, parce qu'il y a effectivement les je crois qu'il y a une société des Amis du Louvre et il y a beaucoup d'Américains qui continuent à aider. Enfin, de là, après, à dire on est en pamoison et on va aider la France à...
Les Américains sont extrêmement actifs pour les Amis du Louvre, pour les Amis de Versailles. Il y a aussi une société qui s'appelle la French Heritage Society qui vient investir dans des monuments historiques français. Ben justement, est-ce que nous, on va investir dans des monuments américains ou italiens ou... C'est extraordinaire. Il y a que la France qui suscite un engouement
sur
pareil.
Sur
Notre-Dame.
Il y a eu un élan international.
Absolument,
au moment où il y a eu l'incendie de Notre-Dame.
Absolument.
Qui montre il y a eu un élan français aussi.
Oui, mais qui montre le regard qu'on porte sur nos monuments. Alors,
d'abord, effectivement, les Américains peuvent admirer notre système de transport, peut-être notre système de santé, même s'il est en train de s'effondrer. Mais c'est parce qu'ils partent, eux, de très très loin hein, par rapport à tout. Voilà, donc faut... mais,
quand on arrive à l'hôpital aux États-Unis, il faut d'abord sortir sa carte bleue, ça c'est vrai.
On ne peut qu'être fier de notre patrimoine et de ce qu'il représente, de notre art de vivre, mais il s'abîme beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, nos monuments, alors Château de Chantilly, grâce à un mécène très généreux, a survécu. Sinon, je ne sais pas dans quel état il serait, mais je sais dans quel état sont beaucoup de nos monuments, à commencer par nos cathédrales. Et on parlait de Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame de Paris, avant même l'incendie, était dans un état dramatique, comme la plupart de nos cathédrales, parce que on dépensait, d'abord les mécènes ne venaient pas du tout, bon, ils sont venus le jour où l'émotion mondiale ou des gens qui, pour lesquels ça n'avait aucune importance, une cathédrale sont sentis monter les larmes aux yeux en voyant que ce monument qui faisait finalement partie de leur univers familier et de leur imaginaire pouvait disparaître. Bon. Mais auparavant, il y avait... Tout le monde cherchait des mécènes pour Notre-Dame de Paris, on n'en trouvait pas, ni ici, ni ailleurs. Les Américains ont beaucoup fait, mais depuis très longtemps, pour le patrimoine français. Ils ont sauvé Versailles, Mais il n'y en avait pas, et l'État ne mettait pas ce qu'il fallait, la puissance publique. Alors, il faut dire que les finances publiques ne sont pas inépuisables non plus, mais ce qui veut dire qu'on était toujours en retard sur la dégradation du bâtiment. Et vous avez énormément en France de bâtiments qui sont de monuments hein, extraordinaires qui sont dans cet état et nos infrastructures aussi. Alors, les Américains ont des infrastructures encore plus en déshérence que nous, mais quand même, je veux dire, on a laissé. Vous savez, on s'est illusionné pendant très longtemps avec ce qu'on appelle la formation brute de capital, c'est l'investissement brut, en oubliant que ce qui compte, c'est l'investissement net. C'est-à-dire qu'il faut regarder si le patrimoine qui est existant, patrimoine de toutes sortes, encore une fois, hein, que ce soit nos universités, nos routes, nos ponts, nos monuments, nos cathédrales, il est suffisamment entretenu pour ne pas se dégrader au fur et à mesure que nous investissons. C'est-à-dire que parce que nous ne l'entretenons pas assez, nous n'investissons pas assez dans son maintien en l'état. Voilà. Je trouve qu'en France, non seulement on n'a pas assez investi, non seulement le patrimoine se dégrade, tous les patrimoines se dégradent, ce n'est pas le seul pays d'Europe, du monde encore une fois, mais en outre, il n'est pas toujours suffisamment mis en valeur. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites.
Et
on est le premier pays pour les visiteurs, on n'est que le troisième pour les recettes. Oui. Les États-Unis étant
c'est
le premier.
C'est vrai, on dépense moins, et d'autant moins que depuis la crise, il y a moins de Chinois. Or, c'était une des populations qui dépensait pas mal. Fermeture de la parenthèse. Mais pour enchaîner avec ce que vient de dire Henri Guénaud, et il me semble que c'est vrai qu'on a un problème de politique publique là-dedans. On a eu des grandes politiques publiques d'attractivité. Louis XIV... il décide de faire venir des artisans, il décide de développer du luxe, il fait des constructions, il modifie Paris, il fait les premiers ministères. Bref, il y a une politique publique pour qu'on soit voilà, la ville du monde. Colbert, on est d'accord. Bon. Même chose sous Napoléon. Napoléon qui va piller l'Europe entière pour faire venir les chefs-d'œuvre de tout le monde. Bon, il sera obligé de les rendre à la fin. Mais disons, il y a ce projet. Même chose sous Napoléon III. Même chose sous la Troisième République, qui pourtant était avare de politique publique. On organise des grandes foires internationales, les grandes rencontres mondiales pour que Paris, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a le palais de Chaillot, qu'on a un certain nombre de monuments qui sont restés de cette époque-là, pour que le monde entier vienne chez nous et se disent, bon voilà, c'est ça la ville lumière, première ville à éclairage magnifique qui fait que tout le monde est fasciné, donc la ville lumière à la fois intellectuelle et matérielle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de politique publique de ce niveau-là. Moi, j'ai le souvenir, on sera tous d'accord là-dessus, des années 60, les villes noires, et comment à un moment donné, la loi Malraux oblige à faire les ravalements, et tout d'un coup, on retrouve un autre Paris, on retrouve une rue de Rivoli lumineuse, alors qu'on avait des monuments noirs, on passait là-dedans en bagnole. Bon, pardon, en voiture. Donc, mais donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas l'équivalent. Même le honni, le très honni, le très détesté François Mitterrand a fait quand même, à l'échelle de Paris, une petite tentative de politique publique avec la pyramide du Louvre, avec les colonnes de Buren, ce qui contribuait aussi à modifier le monument Louvre en évacuant le ministère des Finances et en modifiant la structure interne du musée. Donc, c'était des investissements malgré tout massifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne les vois pas. Alors, est-ce que c'est qu'une question économique? Là, je serais heureux d'avoir le sentiment d'Henri et de Mme Miller, parce que c'est une vraie question pour moi. Est-ce qu'on a encore les moyens, au fond, de cette politique?
Alors, Anne Miller, qui est bien placée, justement, pour répondre.
Moi, je vous trouve quand même un peu sévère. On va quand même accueillir la Coupe du monde de rugby, on va accueillir les Jeux olympiques. Enfin, la France est
dans
encore...
l'existant.
Oui, mais enfin, il faut raisonner, vous parlez de Louis XIV, il faut raisonner sur des périodes de 50 ans. Justement, le Louvre, pour moi, justement, c'est le temps long, l'investissement.
Mais pour vous,
c'est
un stade, c'est la même chose qu'un grand musée.
Non, mais
C'est le même apport.
Non, mais ce que je veux dire,
réfléchir.
Dans l'attractivité. Si je me mets dans l'attractivité de la France en général... la philharmonie qui a été faite récemment et qui est somptueuse et on a enfin une philharmonie de niveau international. Donc moi je vous trouve, voilà, alors peut-être parce que je suis arrivée depuis 3 mois et que je suis enchantée par Chantilly, émerveillée, parce que j'ai vraiment trouvé le condensé de ce que la France a à offrir à Chantilly. C'est extraordinaire, vous avez tout, vous avez... Donc, les collections de peinture, la deuxième après le Louvre, les grands maîtres, vous avez les appartements, vous avez le parc avec l'histoire des jardins dans le parc.
Mais est-ce que vous allez monétiser Chantilly comme par exemple que Jean-Jacques Ayagon puis ensuite Catherine Pégard ont monétisé Versailles, c'est-à-dire que voilà, on a des mécènes, c'est bien, mais aussi on fait venir des entreprises, on organise des défilés de mode, on fait venir etc. etc.
Oui, enfin.
Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Fabrice d'Almeida disait effectivement Louis XIV faisait plein de choses. À l'époque, il y avait de l'argent, les caisses étaient pleines dans le trésor. Enfin,
et il le fait pour faire venir l'argent.
Je crois que c'est très important, en effet, de profiter de toutes les pistes. Ce qu'il faut, c'est garder un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, les privatisations d'espace se fasse au détriment du public. Mais justement, on n'est pas ouvert le mardi, donc on fait pas mal de privatisations le mardi. On n'est pas ouvert le soir, on fait des privatisations le soir. Et on veille, et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. On veille simplement d'abord à ce que nos contrats sont très stricts. S'il y a le moindre dégât, il faut que ce soit remis en état. Et d'autre part, on veille à ce que ça ne dérange pas les visites. Mais c'est très important aussi. C'est de la saine gestion pour moi.
On a beaucoup parlé des monuments, de tout ce qui nous accompagne dans l'histoire de France. Mais enfin, parlons quand même des gens, des hommes, des femmes de ce pays. Je ne vais pas vous resservir comme un buffet froid, la fuite des cerveaux, mais bon, ça existe quand même. On a une école avec un grand E, on a Polytechnique, on a les mines, les ponts, on a, comment dirais-je, des grandes écoles d'ingénieurs, on a une école aussi de médecine qui est reconnue, même s'il y a l'affaire du numerus clausus qui remet plein de choses en cause. Mais voilà, on a des étudiants qui font là, qui font une start-up et qui, au bout de 5 ans, 6 ans, c'est un modèle qui a tendance à se perpétuer. C'est effectivement, on se fait racheter par une boîte américaine, par une boîte norvégienne, par une boîte suisse, par une boîte asiatique, par une boîte indienne, et on s'en va. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux. Parce que, et je vous interroge, qu'est-ce qui fait que la France, c'est quoi? C'est une histoire, c'est un drapeau, c'est une nation, c'est une idée de la citoyenneté. Ben non, on s'en va, on va vivre dans un autre pays parce qu'il est plus attractif.
Et c'est une langue.
Voilà.
Et
qu'est-ce qui se passe, docteur Dalméda ?
Enfin, moi, ce que j'ai regardé, qui m'intéresse toujours, c'est la question de l'attractivité étudiante. Et c'est vrai qu'elle est à peu près maintenue. C'est-à-dire qu'elle est en léger déclin, mais elle est à peu près maintenue. On a quand même encore toujours à peu près 360 000 étudiants qui viennent étudier en France. Mais c'est vrai qu'en termes d'attractivité à l'échelle internationale, quand on regarde les grands classements, quand on regarde où vont les étudiants des pays les plus riches, ben, ce n'est pas forcément chez nous, et c'est, je dirais même, pas du tout chez nous.
Alors que ça l'a été.
Oui, mais on a, pour le coup, on a maintenant un vrai problème linguistique. Il faut quand même le dire, par rapport à beaucoup de pays, on est resté très attaché à la langue française. On fait beaucoup moins d'enseignement en anglais.
Ouais, mais on a raison d'une certaine manière d'être attaché.
Peut-être pas. Les Hollandais,
Les Hollandais
ont fait une stratégie très différente. Ils sont très, très largement passés à l'anglais.
Enfin, vous parlez le néerlandais ou pas ?
Non, mais eux parlent anglais. Oui. Et leur université parle anglais. Université de Leyde, Université de Rotterdam, Université de Groningen, Amsterdam. Voilà, toutes ces universités-là, elles offrent une palette d'enseignement international. Résultat, elles ont même une attractivité pour les étudiants français. Donc là, il y a un vrai...
Il y a un vrai problème.
Pour le coup, c'est là où on a besoin d'avoir une politique.
Henri Guaido.
Oui, mais moi, je vois pas à quoi ça sert d'avoir une politique d'attractivité si c'est pour offrir en France un double dégradé de ce que font les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas si c'est pour faire une seconde Amérique en moins bien, c'est pas la peine. Donc, les gens qui viennent en France, ils viennent en France pour avoir des cours en français, pour apprendre en français, pour étudier en français. Qu'on ait par ailleurs des cours de langue, c'est très bien. Qu'il y ait quelques cours quand on invite un professeur étranger qui parle anglais ou chinois, c'est très bien.
Mais sur la fuite des cerveaux.
Voilà, mais ça. C'est très intéressant parce qu'on dit l'attractivité elle est maintenue, c'est vrai en nombre. Alors ça essentiellement d'ailleurs pour des élèves francophones. Hein.
Beaucoup voilà. Francophones,
parce
beaucoup
que. Afrique. Mais oui, mais souvent c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Hein. Faut être clair, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent étudier dans la langue et puis d'autres parce que c'est plus commode. Voilà, c'est plus facile. Mais ce qui se passe c'est que les gens font. Il y a encore de très très bons établissements scolaires en France, enfin, d'enseignement supérieur. Il y a des grandes écoles qu'on essaye de détruire d'ailleurs, et puis il y a de très belles facultés.
Là, vous avez parlé de l'ENA, là.
Non, mais l'ENA, c'est, enfin,
ben, c'est fini.
C'est un cas particulier, c'est fini. On y trace d'une autre façon, j'en sais rien, mais la Polytechnique, l'école normale supérieure. Vous savez quelle est l'école au monde qui a fabriqué le plus de prix Nobel ?
Physique, chimie,
c'est l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, depuis que le prix Nobel existe, tout prix Nobel confondu. Et Polytechnique doit être sixième, à peu près. Enfin, une étude américaine avait montré ça. Donc, faut pas abîmer tout ça sous prétexte de vouloir absolument ressembler au modèle universel de faculté d'économie. Bon, ça, c'est la première chose. Mais beaucoup de gens font des études, beaucoup de Français hein, font des études très brillantes dans des universités scientifiques comme Jussieu ou à Polytechnique ou à l'école normale supérieure. Et puis quand ils ont fini leurs études, éventuellement ils commencent leur doctorat. Enfin, et puis ils s'en vont. Mais ils s'en vont parce qu'on ne leur donne pas ni les moyens de vivre correctement, ni les moyens de travailler correctement.
Ils ne sont pas assez payés.
On a un petit marché voilà. Académique.
Ils n'ont pas les moyens de faire de la recherche. Ils n'ont pas les moyens qu'on leur donne aux États-Unis dans les grandes universités américaines, dans les grands laboratoires américains, ou même dans certains pays européens comme l'Allemagne. Voilà, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils ne trouvent plus les moyens de continuer leur recherche en France au niveau qu'on leur offre ailleurs.
Anne Miller.
Moi, je voulais quand même toujours vous apporter l'éclairage que j'avais vu à la French Tech, ce qui m'a quand même marqué quand j'étais là-bas, c'est de voir que les licornes françaises s'étaient développées et que contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 2017-2018, où là, vraiment, dès qu'une société grossissait un petit peu, elle se faisait racheter ou... son fondateur allait s'établir à l'étranger. Là, vraiment, les sièges sociaux restent en France. Et avec la French Tech, justement, on a réussi à créer une vraie communauté d'entrepreneurs qui sont fiers d'être français, qui sont fiers d'être un peu spéciaux. S'ils partent aux États-Unis, ils ne sont plus vraiment spéciaux, qui sont reconnus en tant que French. Parfois même des fondateurs à titre personnel déménagent, mais ils ne font pas déménager leur siège social. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils se sont sentis... Ils se sont sentis soutenus, justement, par les politiques publiques. Ils se sont sentis promus. Ils se sont sentis distingués. Et même ceux qui vont à l'étranger, j'ai remarqué ça aussi quand j'étais à Boston, les Français qui s'étaient établis à Boston étaient très fiers de se réunir et de se présenter auprès des Américains comme membres de la French Tech. Donc, je pense qu'on peut quand même... nuancer un petit peu cette fuite, parce que en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les sièges sociaux arrêtent de se déplacer. Voilà.
Il y a la question de la taxation qui arrive assez vite derrière.
Justement, il y a eu énormément de progrès de ce point de vue-là. C'est pour ça.
En termes de, si on en croit les statistiques de l'INSEE, il me semble, ça c'est la grande spécialité d'Origeno, mais il me semble qu'on a eu on est le pays le plus attractif d'Europe. En termes d'installation d'entreprises étrangères.
Non, alors ça, c'était.
Origeno.
Il me semble qu'en 2021, c'était 1221, oui, mais peut-être qu'Origeno ne sera pas d'accord avec ce chiffre.
Tous les gouvernements, depuis toujours, ne trichent pas.
Ils font du marketing.
Ils ne veulent pas grand-chose, parce que la question aussi est celle des montants. Vous pouvez avoir beaucoup d'entreprises en nombre, un projet d'investissement avec des montants relativement faible et des créations d'emplois relativement faibles. Donc on est devant en nombre, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, etc. Mais en fait, en montant, ça n'est pas le cas. Et d'autre part, nous investissons en investissement direct beaucoup plus à l'étranger. C'est-à-dire que l'épargne française, elle s'en va s'investir pour beaucoup à l'étranger et pour beaucoup moins, les investissements étrangers viennent s'installer en France. Donc, mais c'est très compliqué de dénouer ce fil. Mais je ne crois pas qu'on puisse être aussi, avoir une telle idée de notre, une telle estime de nos
résultats. L'optimiste Henri Guénaud, on aura compris. Non,
mais... Écoutez, vaut mieux rester sur une note d'optimisme. Merci à Henri Guénaud, De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque chez les éditions du Rocher. Merci à Fabrice Delmena, l'histoire mondiale des riches, apparaît chez Plon le 13 octobre prochain. Et merci à Anne Miller. Il faut aller voir le domaine de Chantilly et également l'exposition Dürer.
L'exposition Dürer qui est exceptionnelle.
Absolument.
C'est vraiment une exposition labellisée d'intérêt national et elle devrait l'être d'intérêt international.
Merci beaucoup à vous trois. Lionel Rousseau, c'est à vous.
Match d'intérêt national ce soir également sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Pierre, avec un match amical de préparation à l'Euro pour l'équipe de France de football. L'équipe de France féminine qui va jouer contre le Cameroun. C'est une revue d'effectifs. On suivra ça en intégralité avec un coup d'envoi à 21h10. On en parlera également dans nos débats avec nos experts et à venir également interview exclusive du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui parle notamment des ambitions pour l'équipe de France féminine. À tout de suite.
À tout de suite, bonne soirée.